Bien, bonsoir. J'ai travaillé pendant 25 ans. Alors, j'ai travaillé parce que je ne suis plus intervenant en milieu scolaire, je suis à la retraite. J'ai arrêté il n'y a pas longtemps. J'ai donc travaillé pendant 25 ans comme intervenant en milieu scolaire en utilisant principalement l'expression théâtrale et en menant en parallèle d'autres activités professionnelles, salarié d'un milieu industriel et puis artiste. Je suis auteur-compositeur-interprète, comédien et romancier. Ces 25 ans, sur ces 25 ans, une bonne quinzaine d'années ont été consacrées à travailler essentiellement sur des projets de prévention de la violence. Il y a une question ? Claude Rouge. Donc 15 ans sur dans les projets de prévention de la violence ou de ce qui touche à l'éducation vivre ensemble. Et ce soir, plutôt que de vous raconter dans le détail ce que j'ai fait, il me semble plus intéressant de tirer des leçons de cette expérience qui était longue en termes de conditions qui peuvent permettre d'avoir des résultats réels et durables. Ce que j'ai vu, c'est que ce ne sont pas les outils pédagogiques qui manquent. Il y en a de nombreux, ni les personnes en capacité de créer de nouveau, s'il y a besoin. Ce qui manque, c'est la volonté politique, mais là on est en train de... Si on est là ce soir, c'est bien pour poser dans le bon sens. Mais également, moi ce que j'ai vu pendant cette expérience, c'est des fois où j'ai travaillé, où j'ai vu d'autres travailler, alors des fois il y a des résultats probants, puis d'autres fois où vraiment on pouvait s'interroger pour savoir si ce que l'on avait fait avait servi à quelque chose. Et donc en réfléchissant à ça, je peux peut-être, avec modestie et humilité, parce que c'est de l'analyse, dégager 5 conditions qui me semblent nécessaires pour avoir des résultats. Avant, je donnerai quand même 2 minutes un petit aperçu de ce que j'ai fait, où c'est situé, et puis je terminerai mon intervention, j'espère que j'aurai le temps, parce que j'ai un gros point d'interrogation que j'aimerais partager avec vous. Alors, ce que j'ai fait, j'ai créé des outils pédagogiques avec 2 sources d'inspiration. La première source, c'est le théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal, et la pratique du théâtre forum comme outil d'expérimentation sociale. Et l'autre source d'inspiration, c'est la communication non violente, et notamment tout le volet d'expression des émotions. C'est-à-dire, j'ai fait se rencontrer ces 2 pratiques, l'une s'enrichissant de l'autre. Exemple, un groupe d'élèves est amené à créer une situation de violence, jouer une situation de violence, donc avec un enchaînement de causes, puis le moment de violence. À ce moment-là, on demande aux acteurs d'exprimer ce qu'ils ressentent, dans les 3 positions, auteur de violence, victime et témoin, et en s'appuyant sur les ressentis négatifs exprimés, on peut justifier la demande de recherche de solutions alternatives. Et les solutions alternatives sont testées par le jeu théâtral et analysées non pas en termes moraux, mais en termes de ressentis. Comment on se sent avec telle solution? On peut très bien avoir réussi par une idée à faire disparaître de la scène la violence, mais si les protagonistes sont dans un état émotionnel tel que 5 minutes plus tard et 50 mètres plus loin, ça va se reproduire, on n'aura rien gagné. 2 caractéristiques très importantes, un travail très étroit avec les enseignants. On travaille ensemble, alors jamais vraiment ensemble, mais vraiment en étroite collaboration, et de manière à ce qu'il y ait une imprégnation réciproque des pratiques pédagogiques. Et puis, un travail aussi avec les parents. Les enfants montrent leur travail aux parents et c'est l'occasion d'interrogation sur les pratiques éducatives. Voilà. J'en dis pas plus. Après, si vous en voulez, il y a 5 minutes pour poser des questions. Ou après, on peut pas se voir. J'en viens donc à ce qui me semble être les 5 conditions importantes. Il y en a sûrement d'autres. La première, c'est de ne pas confondre le curatif et le préventif. Ce ne sont pas les mêmes outils qui peuvent donner des résultats dans des situations à chaud, dans un établissement scolaire où il y a eu feu, au propre ou au figuré, et dans un établissement où le corps enseignant sent une montée des tensions et redoute pour les années à venir une arrivée de la violence. Moi, les outils que j'ai créés sont des outils de prévention, ce qui signifie que quand un collège me contactait, me disait par exemple, dans les classes de 5e, ça commence à dériver, qu'est-ce qu'on peut faire? Ma réponse était souvent, mais il faut travailler dans les écoles primaires du secteur de recrutement avec les élèves de CM. Travailler vraiment en amont. Donc, distinguer bien préventif et curatif. Chaque fois que je suis intervenu à chaud, j'ai bien senti que ça ne servait à rien. Deuxième condition, la durée. Il n'y a aucun effet immédiat. Alors, ça, il faut le savoir, parce que quand on commence, on se demande à quoi ça sert. Généralement, les premiers signes, mais vraiment qu'il y a des gens de très proches qui les voient, c'est au bout de 3 ans, et les signes vraiment tangibles au bout de 6 ans. Alors ça pose aussi un problème de financement, pour un financement de 6 ans, même plus, parce qu'au bout de 6 ans, c'est juste le début. Donc longue durée, et puis surtout, ce sont souvent, en tout cas c'était mon cas, des initiatives municipales de projets. Une municipalité arrive aux affaires et décide de monter un projet de prévention des violences. Il faut à peu près 2 ans pour monter le projet, et il voudrait, avant l'échéance suivante, c'est-à-dire au bout de 3 ans, 3 ans et demi, avoir des résultats pour faire valoir, au moment de l'élection, le bien fondé de leur initiative. Et là, c'est pas possible. Donc ça, il faut le dire tout de suite. Hein, moi, j'ai eu dans un certain nombre d'un projet, il y a un malentendu complet, au bout de 3 ans, on a pensé que le projet allait être supprimé. Alors si on avait dit d'entrée, n'attendez aucun résultat avant 6 ans, les choses auraient été claires. Troisième condition, c'est celle qui concerne ce que j'appelle le périmètre éducatif. Le périmètre éducatif, ce sont l'ensemble des acteurs qui interviennent dans l'éducation de l'enfant. Il y a la famille avec les parents, puis les autres membres de la famille, le milieu scolaire avec les enseignants, mais aussi les autres personnels de l'éducation nationale, et puis tout le milieu socio-éducatif, éducateurs de quartier, clubs de sport, centres de loisirs, etc. Ce que j'ai constaté, c'est que si on mène une action à un seul endroit de ce périmètre, aussi pertinente soit-elle, on obtient peu de résultats. Et dès qu'on se met à multiplier les initiatives à différents endroits du périmètre, à ce moment-là, les résultats sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus solides. Et ça se comprend parce qu'on ne travaille pas sur l'acquisition de notions, mais sur une évolution des cultures. Et sur une micro-société, la culture, elle ne peut pas se modifier par intervention uniquement à un endroit. C'est important de travailler sur la globalité, sur le périmètre global. Exemple, des parents vont venir voir travailler leurs enfants, voir le travail des enfants en théâtre, ils vont découvrir à ce moment-là l'importance du langage des émotions, du langage émotionnel. Imaginez que quelques temps plus tard, une assistante sociale de secteur vient visiter cette famille et utilise ce langage. Voilà, c'est ça qui va permettre vraiment de faire avancer une population vers la culture de paix. Quatrième condition, c'est ce que j'appelle la cohérence personnelle. Alors, je vais vous donner un exemple. Ici, on est 5, hein, enfin 4 intervenants et un animateur. On n'est sûrement pas d'accord sur tout. Imaginez qu'au cours de la soirée, des désaccords apparaissent, et puis qu'on les gère mal, si entre nous les tensions commencent à monter, on commence à plus trop s'écouter, à déformer les propos de l'autre, à émettre des procès d'intention, voire des mots, bon, je pense pas qu'on en viendra au coup, hein, on est bien élevé, d'accord. Donc imaginez ça 2 minutes. Quelle crédibilité on aurait par rapport à nos propos? Plus aucune. Donc ce que je veux dire par là, c'est dans notre travail, dans les relations que l'on a, par exemple, avec les enseignants, avec lesquels on a des points d'incompréhension assez souvent, des points de désaccord, avec les élèves, vis-à-vis desquels on a on peut avoir un rapport d'autorité à avoir, donc la manière de d'exercer, et vis-à-vis de nos collègues, dans nos propres structures associatives, c'est essentiel qu'on agisse en cohérence avec ce qu'on essaie de faire. Alors, ça a 2 enjeux, la crédibilité, mais aussi, chaque fois qu'on essaye de fonctionner dans la logique d'une gestion pacifique du conflit, on se heurte à des difficultés, c'est pas facile. L'objectif, c'est pas qu'on soit bon à chaque fois, c'est impossible, ça. Et au moins, on essaye. Et à chaque fois qu'on essaye, on se confronte à des difficultés, à des échecs qui sont extrêmement formateurs, et qui nous permettent de réinjecter du plus dans nos démarches pédagogiques. Cinquième condition, il est indispensable de convaincre l'institution éducation nationale que la promotion de la culture de paix en milieu scolaire, ce n'est pas une perte de temps pour les apprentissages. On a tout parlé, Vincent a parlé du projet de loi, on peut espérer que ce projet de loi y passe. Si l'institution éducation nationale, depuis le sommet jusqu'à la base, est convaincue que c'est une perte de temps par rapport aux apprentissages fondamentaux, il n'y a rien qui se fera. Et là, par expérience, je peux vous dire que c'est difficile. Et il est évident que tous les enseignants avec lesquels j'ai travaillé en sont convaincus que ça permet un plus énorme au niveau des apprentissages, que c'est un gain de temps. Mais dès qu'on monte un petit peu dans les sphères d'éducation nationale, c'est le contraire et c'est le blocage. Et là, il faut qu'on ait quelque chose pour y comprendre. Voilà, ces 5 conditions, je les rappelle brièvement, distinguer curatif et préventif, la durée, agir sur l'ensemble du périmètre éducatif, la cohérence personnelle et le plus au niveau des apprentissages. J'en viens au point d'interrogation. Qui m'a fait hésiter à venir, c'est pour vous dire. Si on est là, c'est qu'on souhaite voir arriver dans l'école l'apprentissage à la non-violence et à la culture de paix. Mais l'école, a parmi ses missions, ce n'est pas la seule, de préparer la jeunesse, les enfants, à trouver une place dans le monde économique. Et aujourd'hui, dans le monde économique, il ne fonctionne pas sur des valeurs de paix et sur vivre ensemble. Je vous donne un exemple très concret que j'ai vécu il y a 10 jours. Je m'occupe dans ma commune de la défense du service public postal en milieu rural. Suite aux actions qu'on a menées, suite aussi à un certain nombre de suicides à la poste, il y a eu la direction de la poste est obligée de revoir un petit peu sa réorganisation, de freiner les fermetures, et elle a eu la bonne idée, c'est pas ironique, vraiment une bonne idée, de réintroduire ce qui existait à une époque, ça s'appelle les facteurs ruraux. C'est-à-dire ce sont des personnels qui, sur un bureau de poste, à la fois s'occupent de la distribution du courrier et de la tenue du guichet. Ça devait se mettre en place au 1er janvier dans une commune pas loin de chez moi, et j'ai appris que ça ne s'est pas mis en place, je suis allé me renseigner pourquoi. Mais parce qu'aujourd'hui, la branche courrier de la poste et la branche guichet sont incapables de travailler ensemble. Avant, c'était la même entreprise, la même entité économique, qui travaillait dans un objectif de service public, de répondre aux besoins des usagers. On a séparé, dans les logiques économiques, qui est la logique dominante aujourd'hui, on a séparé ces deux entités. On en a fait deux entités économiques différentes, qui ne sont pas concurrentes, parce qu'elles ne travaillent pas sur les mêmes segments, mais qui sont concurrentes quand même, qui sont en compétition l'une par rapport à l'autre, par rapport à la rentabilité. C'est la CL qui sera la plus rentable par rapport à l'autre, pour avoir les gratifications, etc. Le résultat, on a détruit la capacité de travailler ensemble. Alors moi je vous dis, il y a une contradiction. Faire entrer la culture de paix dans l'école, alors que la mission de l'école est de préparer les enfants à, pas forcément à tous des tueurs, mais enfin, bon, c'est quand même un peu ça. Alors, non mais je sais que ça fait débat. Alors on peut penser que justement, c'est très bien, on va injecter dans l'école un petit peu quelque chose qui va faire modifier les choses petit à petit. Moi je crains que ce soit assez naïf. Et moi, je crains trois situations. La première, c'est que l'école ferme la porte. Sous la pression des milieux économiques, en disant, aujourd'hui, ce dont on a besoin dans les formations, c'est pas la culture de paix. Deuxième chose qui peut se passer, c'est qu'on forme les enfants à la culture de paix. Certains y adhèrent fortement. Et une fois arrivés devant le marché du travail, ils ne passent pas les entretiens d'embauche. Ou si jamais ils les passent, ils se sentent vraiment décalés. Et très mal. Aujourd'hui, les suicides, c'est comme là, c'est la cause des suicides, et là, c'est un problème culturel dans le milieu professionnel. Troisième possibilité, qui me semble peut-être la plus probable, c'est que le travail qui pourrait être fait dans les écoles va consister à mettre un vernis. C'est-à-dire qu'on va apprendre des mots, des langages, des attitudes, qui vont permettre aux futurs salariés d'être aussi tueurs que sont leurs prédécesseurs, mais sans que ça se voit. Et ce qui me fait penser ça, c'est que dans une entreprise où j'ai travaillé et que Jean-Luc connaît bien, un jour on a vu apparaître une valeur d'entreprise qui s'appelle l'obsession du client. J'ai eu un certain nombre de gens qui ont réagi, pas beaucoup, mais suffisamment pour qu'au bout de quelques années, le terme d'obsession soit enlevé. Mais sur le fond, sur ce qu'on demandait aux salariés, l'attitude par rapport au client, cette espèce de mettre le client dans une position de toute puissance et de nous accepter de se plier à cette toute puissance, là ça n'a pas été modifié. Voilà. Donc, moi, j'ai pas de réponse. Mais j'ai simplement un pressentiment. C'est que, si on ne pose pas la question, vraiment le plus souvent possible, partout où on intervient, pour que ce soit un jour prise en compte réellement, eh bien, on risque de passer à côté de quelque chose. Et c'est peut-être là, la sixième condition, pour réussir. Je vous remercie.